Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien. Bonjour à tous. Encore une fois, donc, bonne année à vous. Bonne entrée dans l'année du buffle. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être fait la fête dimanche soir. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que si nous parlons actuellement du retour de Confucius, notre bon vieux Confucius revient de loin, et même de très loin, à tel point qu'il nous a fallu remonter un siècle et demi en arrière pour retracer le début de ce qu'on pourrait appeler la longue marche de Confucius vers la modernité. Nous avons vu ainsi que pendant le siècle qui s'est écoulé entre les années 1860, on a vu que ça correspondait à la Seconde Guerre de l'opium, et les années 1960, c'est-à-dire les années de la Révolution culturelle, donc entre 1860 et 1960, la figure de Confucius a connu une véritable descente aux enfers, en passant d'abord par une perte de corporéité, on pourrait dire une perte de corps, puisque, comme je vous le rappelle, à partir de 1905, c'est-à-dire donc la date de l'abolition du système des examens, c'est-à-dire du système de recrutement des serviteurs de l'État par concours, nous avons donc déjà en 1905 symboliquement une perte de corps textuel, puisque à partir de ce moment-là, il n'est plus obligatoire pour les élites de maîtriser donc ce corpus canonique confucéen qui avait été véritablement la base de leur savoir et de leur pouvoir, comme dirait Bourdieu, donc jusqu'alors. Et en 1911, avec l'effondrement définitif du régime impérial, nous avons une perte de corps institutionnel. C'est-à-dire donc non seulement les élites perdent justement cette base de savoir, mais elles perdent également cette base de pouvoir politique. Et cette perte de corps est aggravée donc par une véritable destruction. Là c'est plus simplement une perte de corps symbolique, mais une destruction intellectuelle et morale avec le fameux mouvement du 4 mai 1919 qui culmine enfin dans une destruction physique et matérielle avec donc les 10 années de la Révolution culturelle, donc entre 1966 et 1976. Nous sommes restés la dernière fois, si vous vous rappelez bien, sur l'image de destruction brutale et violente donc de ce garde rouge en train de démolir à la masse donc un pilier donc du temple, enfin de un pilier d'entrée donc du temple principal de l'ensemble confucéen donc de Chufu, c'est-à-dire donc le lieu de naissance de Confucius. Alors, dans ce processus traumatisant d'entrée dans la modernité occidentale, Confucius n'est évidemment qu'un symbole. C'est un symbole phare, puisqu'il incarne à lui seul tout ce qu'on considérait alors comme la vieille Chine. Ou pour reprendre l'expression de la Révolution culturelle, donc les quatre vieilleries, les Sijiu, c'est-à-dire donc la vieille culture, les vieux modes de pensée, les vieilles habitudes, etc. Alors, cette vieille Chine dont on ne veut plus, dont il faut impérativement se débarrasser pour tout simplement rien moins qu'assurer la survie nationale, c'est-à-dire pour se donner une chance de rattraper le train de la modernité. Donc c'est ce processus de destruction au nom de la modernité que les intellectuels chinois d'aujourd'hui appellent la rupture. Ils emploient donc le terme chinois de tuanlie, qui évoque donc une cassure. Tuan, c'est vous prenez un bâton et vous le cassez en deux. Lié, c'est ce qui se fend, se fissure, se crevasse. Donc, tuan lié, ce terme qu'on emploie actuellement, donc évoque bien cette cassure, cette coupure par rapport à la tradition. On emploie le mot de chuantong, c'est-à-dire ce qui se transmet. Comme un fil dans le mot tronc. Vous avez le radical donc, de la soie donc, qui évoque bien en fait, un fil continu. Donc, chuan tronc évoque donc, une transmission continue qui, donc, avec l'irruption de la modernité, donc, est cassée. Et une profusion d'ouvrages publiés récemment en Chine portent dans leur titre justement la référence à la modernité comme rupture radicale et irrémédiable par rapport à la tradition. Vous avez une pléthore d'ouvrages actuellement qui portent dans le titre justement cette dichotomie entre chuantong d'un côté, c'est-à-dire la tradition, et tuanlie de l'autre, c'est-à-dire donc quelque chose qui est cassé. Mais dans cette cassure, il y a plus que simplement la rupture avec la tradition. Il y a, pour filer une métaphore donc corporelle, il y a le démembrement de ce qui était auparavant un organisme entier et vivant. Ce que la terminologie occidentale appelle par un isme, le confucianisme, désigne justement l'entité organique dans laquelle était unifié en un tout holiste, du grec holos, qui veut dire donc tout entier. Donc ça désigne cette entité organique et vivante dans laquelle donc s'unifie toutes les dimensions, c'est-à-dire le cosmique, le politique, le religieux, l'éducatif, le tout donc incarné par le régime impérial, avec à sa tête l'empereur, donc fils du ciel. Cette désignation de fils du ciel dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire donc il y a une filiation donc du sang. L'empereur est fils d'eux, et en même temps il est fils du ciel, c'est-à-dire qu'il est relié directement donc à l'entité cosmique, ce qui évidemment valide cette formule traditionnelle chinoise donc du tianren heyi, c'est-à-dire donc l'unité du ciel et de l'homme, ou alors on peut dire aussi enfin que le ciel, la terre et l'homme ne font qu'un. Or, ce qu'a introduit la modernité occidentale, c'est la partition, et certains préfèrent parler de différenciation, moi je viens de parler de démembrement, donc de partition entre le politique, l'éthique et le religieux, qui se traduit à la fois en termes institutionnels et en termes axiologiques, c'est-à-dire en termes de valeurs. Et c'est donc à la suite de cette rupture, doublée donc d'un démembrement, que Confucius et tout ce qu'il représente ont été réduits à l'état d'âme errante, hein, comme je le disais la dernière fois, hein, de yohuan, hein, dans l'expression chinoise, donc d'âme errante détachée de tout corps. Et donc là, en fait, nous entrons maintenant dans une phase nouvelle qui, d'une certaine manière, après un siècle de destruction et de rupture, au cours des 30 dernières années, voit s'inverser le processus. Hein, donc nous avons une inversion de ce processus de destruction, mais qui est en réalité, je le vois comme ça en tout cas, comme la quête d'un corps perdu. Alors, comme je le rappelais à l'instant, donc la révolution culturelle a duré une dizaine d'années, mais la sortie du maoïsme, la politique de démaoïsation, en a pris autant, sinon plus. Et c'est donc seulement à partir des années 1980, et plutôt vers la fin des années 1980, qu'on commence à observer un renversement spectaculaire qui se fait sentir d'abord à la périphérie de la Chine continentale. J'insiste beaucoup justement sur ce terme de périphérie, comme vous allez voir, c'est important. Alors, ce renversement... C'est très joli, cette musique. Nous avons même une illustration musicale donc, de ce renversement qui concerne non pas tant le contenu d'interprétation même du confucianisme que l'évaluation de ce contenu au regard de la question de la modernité. C'est-à-dire que du statut d'obstacle irréductible, le confucianisme passe pratiquement du jour au lendemain au statut inverse, c'est-à-dire à celui de moteur central de la modernisation. Alors, ce qui est à l'origine de ce renversement a en fait peu à voir avec le confucianisme lui-même, mais bien plutôt avec une situation historique et économique inédite. Donc, après les dix années de délire utopiste de la révolution culturelle et la mort de Mao en 1976, le modèle communiste révolutionnaire est abandonné de facto en Chine même, pendant qu'à la périphérie, on assiste à l'essor économique sans précédent dans le sillage du Japon de ce qu'on appelait alors les quatre petits dragons, à savoir donc Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Donc là, vous voyez se dessiner justement cette couronne périphérique. Puisque c'est, comme j'y ai insisté tout à l'heure, donc par la périphérie que s'amorce ce fameux renversement. Du coup, ces marges de l'ancien empire, en même temps que les valeurs asiatiques, dont on a beaucoup parlé à l'époque, vous vous souvenez peut-être que dans les années 80, ces valeurs asiatiques faisaient beaucoup parler d'elles, et donc en Chine ça se traduit en termes de valeurs confucéennes, ces valeurs asiatiques ou confucéennes que ces marges revendiquent se trouvent tout d'un coup projetées dans une centralité exemplaire et deviennent l'objet de toutes les attentions et de toutes les émulations, y compris de la part des Occidentaux. En effet, au moment où le communisme en Chine, mais aussi en Europe de l'Est, connaît une crise majeure, les sociétés occidentales capitalistes croient percevoir des signes de déclin dans leur propre développement. C'est justement dans ces années 80 qu'on a commencé beaucoup à parler du déclin de l'Occident. Alors, dans ce contexte, les valeurs confucéennes, censées expliquer l'essor d'un capitalisme spécifiquement asiatique, arrivent donc à point nommé pour préconiser de remédier à la défaillance du modèle occidental, de la modernité, par son dépassement. Alors, si le renouveau confucéen constitue une préoccupation majeure chez certains intellectuels chinois, comme on l'a vu dès les années 1920 et 1930, le facteur déclencheur du renversement des années 1980, lui, est à rechercher dans la situation mondiale et son épicentre à repérer non pas dans les sociétés chinoises à proprement parler, mais dans les milieux de Chinois occidentalisés et anglophones aux États-Unis et à Singapour. C'est également à ce moment-là qu'on a parlé justement en termes assez peu plaisants du phénomène des bananes, c'est-à-dire des gens jaunes à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Donc les bananes, en fait, j'imagine que j'en suis une aussi, donc désigne en fait ces Chinois occidentalisés, donc vivant hors de Chine, notamment dans des sociétés anglophones. Alors, dès la fin des années 1970, on voit par exemple le gouvernement singapourien de Lee Kuan Yew, dont vous devriez avoir le... Oui, le nom ici, donc tout en haut, Lee Kuan Yew, donc Premier ministre de Singapour, lance le projet d'une injection accrue, je le cite, d'une injection accrue de valeurs asiatiques dans le cursus scolaire comme moyen de contrer, je le cite toujours, de contrer l'emprise culturelle de l'Occident sur les jeunes. Alors, ce programme est ensuite mis en place tambour battant sur le conseil d'universitaires sino-américains de renom, à commencer par Tu Weiming, donc dont vous avez le nom ici en troisième position. Alors, j'ai essayé de faire un tableau en caractère plus grand. J'espère que cette fois-ci, ça se voit. Ceux du fond peuvent me confirmer qu'ils voient bien, là. Oui, oui. Bon, très bien, merci. Tu Weiming, dont vous avez le nom transcrit donc d'abord dans le système anglo-saxon et entre parenthèses dans le système chinois, donc de Chine populaire, dit Pinyin, donc, qui est né en 1940, et qui a été d'abord le disciple du grand philosophe Mao Zedong, dont j'ai parlé la dernière fois, dont vous avez le nom en deuxième position. Je vous rappelle ces dates qui vous montrent que c'est pratiquement un contemporain. C'est quelqu'un qui a vécu, donc, dont la vie a couvert pratiquement tout le XXe siècle. Mao Zedong, qui, je vous le rappelle, était l'un des signataires du manifeste de 1958, ce manifeste au ton extrêmement pathétique où nous avions des représentants éminents du nouveau confucianisme contemporain qui priaient, qui suppliaient même leur père de par le monde de bien vouloir croire que le confucianisme était encore vivant et qu'il était encore générateur de valeurs pour le monde moderne. Alors là, maintenant, nous sommes dans une situation totalement inverse. L'heure de l'exil, l'heure de la supplication a laissé place à l'heure de gloire, avec donc Tu Weiming, donc la génération suivante, qui a donc été formé à Taïwan sous justement l'égide de Mao Zedong, avant de faire une brillante carrière aux États-Unis, qui est passée par les plus prestigieuses universités américaines, comme Berkeley en Californie, pour finir à Harvard, où il professe toujours. Et il est aujourd'hui donc l'un des représentants les plus médiatiques du nouveau confucianisme contemporain. Et donc, il y a un peu plus de 20 ans, en 1983, on le voit déjà participer activement à l'établissement de l'Institute of East Asian Philosophies, c'est-à-dire donc l'Institut des philosophies d'Asie orientale de Singapour, dont l'objectif avéré est, je cite, de promouvoir et de réinterpréter le confucianisme. Et on peut dire qu'en l'espace d'à peine 5 ans, l'enclave singapourienne se retrouve transformée de toutes pièces en un paradis confucéen. Et l'ironie veut évidemment que cette confucianisation de Singapour se fasse en anglais, par la médiation de l'anglais. Et je peux enfin donc vous expliquer tous les anglicismes auxquels je suis obligée de recourir. C'est bien pour ça que je parle de revival confucéen, parce que ce renversement se fait d'abord sur la périphérie et en anglais. Alors, au milieu des années 1980, la contagion qui n'épargne évidemment pas Taïwan, Hong Kong, ni la Corée du Sud, mais à l'exception remarquable, mais somme toute explicable, du Japon, cette contagion commence à gagner la Chine populaire, c'est-à-dire de la périphérie, elle commence à gagner donc le centre de l'Empire, qui, depuis la fin des années 1970, est donc occupé à liquider l'héritage maoïste et voudrait bien se raccrocher au wagon de l'asiatisme pour, si possible, prendre la place de la locomotive, pour prendre la tête. Alors, le confucianisme, qui donc a été vilipendé depuis au moins deux générations et attaqué, voire physiquement détruit, avec un comble de violence qu'on a vu pendant la révolution culturelle, fait l'objet, dès 1978, en Chine populaire, d'un premier colloque qui vise à sa réhabilitation. Donc là, vous voyez, on est extrêmement réactif. On sort à peine donc de la révolution culturelle et là, on commence déjà à... vous vous rappelez donc ces slogans de la révolution culturelle qui reprenaient ceux du 4 mai, abat Confucius et compagnie, il faut réduire Confucius en miettes, etc. Donc, quelques années plus tard, sans complexe, on décide de réhabiliter Confucius. Et à partir donc de 1978, il ne se passera pas une seule année en Chine populaire sans la tenue d'au moins plusieurs colloques internationaux sur le confucianisme. Alors, en 1984, on voit cette réhabilitation monter en puissance, une fondation Confucius, une Kongzi Jijinhui, est créée à Pékin, sous l'égide donc du Parti communiste chinois, à l'occasion du 2535e anniversaire de la naissance du grand maître. Et cette célébration de cet anniversaire a lieu donc le 22 septembre. On situe l'anniversaire de Confucius. Enfin, autant vous dire que cette date de fin septembre, elle est à peu près aussi fiable que la date de Noël. Je veux dire, on est encore déjà en train de... Enfin, les historiens sont en train de se disputer sur la date de l'année de naissance. Et j'aime mieux vous dire que pour ce qui est de sa date de naissance, c'est encore moins sûr. Mais enfin, on a à peu près décrété que ce serait fin septembre. Et donc, ce 22 septembre 1984, on célèbre avec faste à Chufu, donc dans l'actuelle province du Shandong, qui est censé être le lieu de naissance de Confucius, en présence de 3000 invités chinois et étrangers. Je le sais parce que j'ai été invitée aussi, mais j'ai boycotté, j'y suis pas allée. Donc, avec restauration solennelle et éminemment symbolique de la statue de Maître Krong qu'on avait scrupuleusement endommagée pendant la Révolution culturelle. Donc, tout ça, on répare, on recolle, on remet sur pied à l'occasion de cet anniversaire. Et depuis, donc, l'anniversaire de Confucius est célébré avec faste et retransmis à la télévision chaque année. J'aurai sans doute l'occasion la prochaine fois, probablement, de vous montrer donc justement des images que j'ai prises moi-même de ces célébrations donc dans l'année 2007, hein, c'est-à-dire juste avant les Jeux Olympiques de Pékin. Alors, je continue donc dès l'année suivante, en 1985. Notre Tu Weiming donc est invité à l'université de Pékin. Donc, on l'avait vu s'activer à Singapour. Maintenant, il gagne le cœur de l'empire pour donner une série de conférences qui seront toutes publiées. Et je dois dire que j'ai pu mesurer moi-même l'impact de son passage lors de ma propre visite à l'Académie des sciences sociales de Pékin un an plus tard. Là, je dois dire qu'on m'a parlé avec enthousiasme et beaucoup de d'ardeur prophétique donc du passage de Tu Weiming. Alors, comme vous le savez, et je le rappelais dans mon tableau illisible la dernière fois, donc en 1992, Deng Xiaoping, lors de sa fameuse tournée des provinces du Sud, cite le Singapour de Lin Kuan-yew comme modèle pour la Chine, au moment même où il lance le fameux concept d'économie socialiste de marché. Là, vous voyez que en Chine, non seulement on a le génie du recyclage, on assume parfaitement les contradictions dans les termes. A priori, pour nos esprits cartésiens, l'économie socialiste ne devrait pas être compatible avec l'économie de marché. Mais alors là, on ramasse tout dans une seule et même formule. C'est vraiment, enfin, je veux dire, quelque chose de tout à fait viable et de façon tout à fait surprenante. On voit que d'une certaine manière, ça fonctionne. On pourrait dire comme Galilée, et pour Simov, et pourtant ça marche. Bon. Alors, cette fièvre confucianiste qui, dans la décennie des années 1980, envahit non seulement le monde sinisé, mais le monde tout entier, a tout d'un phénomène mondialisé. Et elle se traduit par une prolifération sans précédent de colloques et de publications qui tournent tous autour de la question quel est le rapport entre le confucianisme et la modernisation réussie des pays nouvellement industrialisés d'Asie orientale depuis les 30 dernières années. Et plus précisément, il y a la question suivante, le confucianisme joue-t-il un rôle effectif dans le développement du capitalisme et est-il de nature à remédier à ces dysfonctionnements ? Ça, c'était la grande question donc, de la fin des années 1980. Donc on est toujours très prompt à recourir aux arguments culturalistes pour expliquer un phénomène qui, à mon sens, a très très peu à voir en fait avec la culture elle-même. Comme on le voit, il s'agit d'une conjoncture, encore une fois, à la fois historique et économique. Donc, c'est dans ces termes que se sont interrogés des maîtres penseurs anglo-saxons en matière de développement. Et ces auteurs prennent le contre-pied exact des idées de Max Weber dont je parlais la dernière fois, en établissant un lien de cause à effet entre le modèle de développement est-asiatique et les valeurs confucéennes. Alors, ces valeurs confucéennes, c'est soi-disant la valorisation de la famille, le respect de la hiérarchie, la motivation pour l'éducation, le goût du travail acharné, et le sens de l'épargne. Alors, de manière ironique, ce sont précisément ces facteurs qui apparaissaient chez Weber comme des obstacles au développement du capitalisme en Chine, qui promettent désormais d'épargner aux sociétés est-asiatiques les problèmes affectant les sociétés occidentales modernes. Donc là, on prend exactement donc l'argumentation de Weber et on la retourne exactement comme un gant. Alors, nous voyons se profiler ici ce que certains ont appelé un Confucius Economicus qui, du coup, n'est plus le Confucius Philosophicus de l'Europe des Lumières du XVIIIe siècle, mais qui est en réalité la projection de l'idéal du libéralisme économique de l'Europe du XIXe siècle. C'est-à-dire donc là du Confucius Philosophicus de l'Europe du XVIIIe, on est passé au Confucius Economicus de l'Europe du XIXe. Alors, il y a dans cette hypothèse post-confucéenne l'occasion, évidemment, d'une éclatante revanche sur la suprématie occidentale qu'on attendait depuis au moins un siècle en Chine et dans certains pays de la région, puisque on voit bien que cette réhabilitation en force de Confucius correspond bien évidemment à une montée en puissance de la Chine qui désormais compte bien reprendre la tête de la région Asie orientale. Et ça, c'était le projet des années 80, et maintenant nous voyons que ce projet est en train de s'étendre en fait à l'échelle planétaire. Alors, si le confucianisme n'a en réalité pas grand-chose à voir avec le développement économique, il sert bel et bien les fins politiques de dirigeants autoritaires comme ceux du Singapour, du Pékin et du Séoul des années 1980, qui, confrontés à une accélération soudaine du développement économique que les structures sociopolitiques n'arrivent pas à suivre, ces dirigeants trouvent commode, évidemment, de reprendre à leur compte des valeurs confucéennes, garante de stabilité, de discipline et d'ordre social, par opposition à un Occident repoussoir dont le déclin s'expliquerait par son parti pris d'individualisme et d'hédonisme. Et alors là, on a une observation tout à fait intéressante à faire, à savoir que dans ce néo-autoritarisme, puisque c'est à une nouvelle forme d'autoritarisme qu'on réduit justement ces fameuses valeurs confucéennes, c'est-à-dire donc on réduit finalement le confucianisme à un système de soumission à l'autorité. Et là, justement, nous aurons probablement l'occasion de voir ensemble si on peut véritablement réduire à ce point donc le confucianisme. Mais toujours est-il que à Singapour, ce soi-disant respect confucéen de l'ordre social, de la soumission à l'autorité, à la hiérarchie, etc., se traduit par des signes qu'on connaît bien, c'est-à-dire pas un seul chewing-gum sur les trottoirs, une société réglée au métronome, etc. Bon, alors donc, ce qu'on constate, c'est que dans ce néo-autoritarisme se rejoignent à la fois les ex-idéologues marxistes et les idéologues anti-marxistes sur un point tout à fait crucial, c'est-à-dire aux représentations martelées par l'utopie maoïste d'un socialisme sans l'Occident, on substitue une aspiration à une modernité industrielle, toujours sans l'Occident, qui passe du coup pour une post-modernité ou une post-occidentalité. Et là, je crois qu'il va falloir se poser la question justement de savoir si ce passage en marche forcée à du post-maoïsme, à du post-confucianisme, à du post-moderne, du post-occidental, est-ce que là, on n'est pas en train de court-circuiter quelque chose d'important, à savoir la construction du politique. Ça, c'est une question que je pose et que je laisse ouverte pour l'instant. Alors, toujours est-il que, pour le moment, nous voyons que Confucius, dès les années 1980, a pris une dimension globalisée, notamment grâce à ce que j'ai appelé, il y a peu de temps dans ma leçon inaugurale, l'autoroute qui relie désormais les deux rivages du Pacifique, entre les États-Unis d'une part et la Chine continentale d'autre part. Donc, pendant la période maoïste, nous avions une sorte déjà de pont sur le Pacifique entre les États-Unis et la Chine nationaliste du Kuomintang, donc à Taïwan. Mais aujourd'hui, c'est le tour donc de la Chine continentale. Il existe maintenant, et c'est un concept qui est désormais acquis, celui de Pacific Rim, Rim, R-I-M, c'est-à-dire donc le concept du pourtour pacifique, qui ne concerne pas seulement les rapports géopolitiques et les échanges économiques, mais aussi la circulation des idées. Je disais donc je rappelais dans ma leçon inaugurale que cette autoroute assure une circulation permanente entre les universitaires chinois et américains. Et alors, évidemment, la constatation que nous, Européens, devons faire, c'est que pour nous, Européens, historiquement, en fait, la Chine est arrivée en Europe, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, par le continent, par la voie de terre, enfin en quelque sorte, même si on a aussi emprunté la voie de mer. Mais enfin, disons que elle est arrivée par notre continent eurasiatique grâce à la médiation notamment des missionnaires, comme on aura l'occasion de le rappeler bientôt. Tandis qu'actuellement, on a le sentiment que la Chine arrive en Amérique par le Pacifique. Elle arrive dans le monde occidental par le Pacifique, et du coup, elle laisse l'Europe donc en dehors de cet axe principal de circulation. Ça c'est la constatation que je faisais, donc je pense que nous avons beaucoup à faire, nous Européens, justement, pour rappeler. Nous pourrions faire une sorte de manifeste de 1958 pour essayer de rappeler que nous existons toujours et que nous sommes peut-être encore éventuellement générateurs de valeur. Alors, cette autoroute donc pacifique au plan académique trouve ses représentants en tout premier lieu dans le milieu philosophique. Et l'une de ces illustrations majeures est ce qu'on a appelé carrément le Boston Confucianism, hein, c'est-à-dire le confucianisme de Boston, qui a pris naissance autour donc, de l'infatigable chantre et prophète du confucianisme des temps nouveaux, pour ne pas dire New Age, donc notre fameux Tu Weiming, qui prophétise carrément donc une sorte de confucianisme de la troisième ère, qui viendrait, je le rappelle, donc après donc la première phase fondatrice du confucianisme ancien et la deuxième phase de refondation post-bouddhique à partir donc du XIe siècle de l'ère chrétienne et qu'on connaît en Occident comme le néo-confucianisme. Donc le nouveau confucianisme contemporain serait donc le confucianisme de la troisième vague. Alors, outre ces incessantes allées et venues dont je parlais à l'instant entre les États-Unis, Singapour, Taïwan, la Chine populaire, Tu Weiming est l'auteur et le coordonnateur d'innombrables ouvrages en anglais et en chinois sur divers aspects du confucianisme. Et beaucoup de ces ouvrages, parus dans les années 1980 et 90, portaient précisément sur la convergence possible qu'il voit entre le nouveau confucianisme contemporain et le renouveau des valeurs asiatiques. Et pendant cette période qui coïncidait donc avec la sortie du maoïsme en Chine populaire, Tu Weiming a été extrêmement actif dans la réhabilitation du confucianisme mis à mal par la révolution culturelle et dans la promotion auprès des élites intellectuelles et dirigeantes des valeurs confucéennes pour suppléer au vide laissé par la faillite de l'idéologie maoïste. C'est-à-dire, après avoir été un conseiller écouté donc, à Singapour, Tu Weiming a joué le même rôle auprès donc, des dirigeants de Pékin. Et c'est un discours qui a été d'autant mieux accepté par ces mêmes dirigeants, pourtant donc connus pour leur autoritarisme, et là c'est peut-être un euphémisme que j'emploie, qu'il promet de remoraliser une société déboussolée par 10 ans de chaos politique et plus encore de remoraliser une jeunesse qui est déjà lancée à toute vitesse dans une nouvelle logique économique génératrice évidemment de désirs consuméristes et de comportements individualistes, précisément ce que Lee Kuan Yew ne voulait pas, ou en tout cas rejetait sur le dos justement de l'Occident repoussoir. Et en même temps, Tu Weiming donc est très écouté ailleurs dans le monde, qu'il sillonne inlassablement en tant que représentant des valeurs confucéennes dans un grand dialogue mondial interculturel et interreligieux. Et évidemment, il commence par être écouté notamment tout près de chez lui, c'est-à-dire donc à Boston, hein, mais ailleurs également, en fait, dans le monde universitaire américain, vous avez justement tous ces noms donc sur le tableau que j'essaye de faire défiler, hein, avant donc de vous montrer justement la couverture donc d'un ouvrage tout à fait tout à fait symbolique, à savoir donc cet ouvrage donc sur Attendez, voyons. Là, je... Excusez-moi. Désolée, là... Voilà. Voilà. Bien, donc, vous avez donc la couverture de cet ouvrage donc, qui est dû à Robert Cummings Neville, Robert C. Neville, qui est donc professeur de philosophie à Boston. Je signale au passage qu'il est également doyen de la faculté de théologie de Boston. Boston, dont je vous rappelle que c'est en fait c'est la grande ville à côté de Harvard. Hein. C'est pour ça que je dis que là en fait Tuiming est chez lui hein, d'une certaine façon. Et donc nous avons cet ouvrage qui porte le avec une préface, vous le voyez, foreword par Tuiming. Et qui porte le sous-titre tout à fait intéressant hein, de « Portable Tradition in the Late Modern World hein, », c'est-à-dire donc le confucianisme de Boston, une tradition portative hein, dans le monde... alors, Neville emploie le terme de late modern, mais il aurait pu aussi dire post-modern, hein, c'est-à-dire donc il dit de la modernité tardive, mais en fait ça pourrait être en fait une tradition portative pour le monde post-moderne. Hein. Et alors là, évidemment, j'attire votre attention à laquelle ça n'a pas sûrement pas échappé. Donc cette superposition, bien sûr, tout à fait symbolique entre donc les gratte-ciel caractéristiques de l'horizon de toute grande métropole moderne qui se respecte et donc la statue d'un lettré fonctionnaire confucéen qu'on va probablement retrouver dans une photo que j'ai, ça je vous la montrerai la prochaine fois, dans une photo que j'ai prise à Tufo, donc sur le lieu de naissance de Confucius. Hein. Donc là, vous avez en fait une sorte de raccourci saisissant hein, et absolument sans médiation entre l'antique tradition confucéenne et la post-modernité occidentale la plus agressive. Hein. Donc, l'idée force de ce confucianisme de Boston, indiqué dans le titre de ce livre, c'est que le confucianisme ne se limite pas aux spécificités de la culture chinoise, ni dans l'espace, ni dans le temps. On peut au contraire le considérer comme donc une tradition portative, c'est-à-dire applicable dans d'autres contextes culturels et même à l'époque contemporaine. Autrement dit, le confucianisme, et c'est la conviction de Neville et de ses confucéens bostoniens, le confucianisme apporte un message universalisable dans notre monde postmoderne. Et donc, avec cette visée, le confucianisme de Boston s'inscrit en fait dans une tendance plus générale donc dans le monde universitaire américain puisque il s'inscrit en fait dans un ensemble plus large où on retrouve des noms bien connus notamment du milieu sinologique. Vous avez le nom de Thomas Metzger qui lui en fait il est à la retraite maintenant mais il a exercé il a enseigné longtemps donc en Californie hein, donc là nous sommes effectivement sur le pourtour pacifique et depuis 1976 où il a publié donc maintenant ça fait 30 ans un ouvrage phare intitulé Escape from Predicament hein, c'est-à-dire donc la sortie du dilemme. Alors, le dilemme dont il parle, c'est le dilemme du néo-confucianisme. Hein, donc, en 1976, en pleine révolution culturelle, en pleine période de la guerre froide, hein, un sinologue américain parle encore justement du néo-confucianisme comme un predicament, c'est-à-dire en fait un dilemme insoluble. Hein. Donc, et on voit justement tout le chemin parcouru, puisque récemment, donc en 2005, il a publié un énorme pavé donc de plus de 800 pages, intitulé, là aussi de manière tout à fait significative, « A Cloud Across the Pacific, Essays on the Clash Between Chinese and Western Political Theories Today », c'est-à-dire donc un nuage au-dessus du Pacifique, et le sous-titre c'est « Essais sur le clash ». Alors là, le clash, ça devrait vous rappeler le fameux titre de Samuel Huntington, hein, The Clash of Civilizations, c'est-à-dire le choc des civilisations. Donc ici, c'est un ensemble d'essais sur donc le choc entre les théories politiques chinoises et occidentales aujourd'hui. Donc là, vous voyez en fait dans cet ouvrage tout le chemin intellectuel qu'a parcouru donc Thomas Metzger, donc en 30 ans. Puisque donc il sort justement du dilemme néo-confucéen pour aboutir justement à une sorte de discussion autour du Pacifique, hein, qui a lieu sur le pourtour du Pacifique, à propos justement des théories politiques. Hein. Autrement dit, pour lui, la Chine maintenant est entrée désormais dans la conversation mondialisée, hein, sur le politique. Un autre grand nom qui devrait parler aux sinologues, c'est celui donc de William Theodore de Barry, hein, qui lui, alors, nous transporte à l'autre bout du continent américain, puisqu'il a été très longtemps professeur à l'Université de Columbia, donc à New York. Nous sommes sur la côte Est. Hein, il a été professeur donc de ce que j'enseigne, c'est-à-dire en fait la pensée d'Asie orientale, et il a animé donc un séminaire à Columbia sur le néo-confucianisme, dont sont issus un certain nombre d'ouvrages, soit individuels ou collectifs, essentiellement donc sur le néo-confucianisme. Donc les Américains ont vraiment une longueur d'avance sur nous concernant donc l'étude du néo-confucianisme qui a concerné donc tout le deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Alors, je signale un de ses ouvrages phares qui date de 1983, donc qui porte le titre, là aussi tout à fait significatif, de The Liberal Tradition in China, c'est-à-dire donc la tradition libérale en Chine, et qui défend la thèse selon laquelle, contrairement aux idées reçues, le néo-confucianisme comporte une réflexion sur l'autonomie, voire la liberté individuelle. Alors là, ça va évidemment à l'encontre justement des poncifs entretenus actuellement justement sur l'esprit confucéen de soumission à l'autorité, etc. Donc de Barry défend donc justement cette idée qu'au contraire, le néo-confucianisme comporte véritablement une réflexion sur la liberté individuelle. Et plus récemment, de Barry a édité avec toujours Du Weiming, qui est décidément partout, hein, un volume collectif sur Confucianism and Human Rights, hein, c'est-à-dire donc une publication de 1998 où est défendue l'idée carrément d'une convergence possible entre valeurs confucéennes et droits de l'homme. Là, vous voyez que nos collègues américains donc poursuivent en temps réel en fait une conversation donc avec les intellectuels chinois sur des questions tout à fait actuelles. Alors, j'ai beau Vous sentez peut-être une pointe d'ironie, enfin, quand je parle de cette autoroute sino-américaine, mais je pense que nous devrions peut-être aussi nous poser des questions à nous-mêmes Européens, justement, sur notre possible participation, justement, à cette conversation. Alors, deux autres noms qui me paraissent importants à signaler avant d'en finir, donc, pour aujourd'hui, ce sont les noms. Alors là, nous avons en fait une sorte de couple, parce qu'ils ont publié de nombreux ouvrages ensemble. Le nom de Roger Ames, Roger T. Ames, et David L. Hall. Donc, Roger T. Ames est un sinologue de formation, mais qui se présente aussi comme un philosophe, puisqu'il est professeur de philosophie à Hawaï. Alors là, ça nous transporte au milieu du Pacifique. Hein, donc là, nous venons de nous transporter d'une côte à l'autre des États-Unis, mais là, nous sommes au milieu du Pacifique, à Hawaï, où a été créé, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, à Honolulu, donc un East-West Center, hein, qui porte bien son nom, c'est-à-dire un centre Est-Ouest, puisque Hawaï, en fait, prétend regarder justement des deux côtés, étant vu sa position géographique. Et de fait, Roger Ames est donc rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Philosophy East and West, c'est-à-dire donc philosophie Est et Ouest, c'est-à-dire orientale et occidentale. Et donc, il a longtemps collaboré avec David Hall, donc, qui est lui un philosophe américain pur jus, très influencé par Whitehead et Rorty, donc Richard Rorty, et qui a été professeur de philosophie à l'université d'El Paso, au Texas, jusqu'à son décès très récent. Donc, le décès de David Hall a bien sûr mis fin de fait à cette collaboration extrêmement fructueuse. Et je signalerai donc, pour commencer, donc, une trilogie, hein, qu'a publié donc cette paire, on pourrait dire, à savoir donc trois ouvrages qui sont sortis donc successivement. D'abord, un ouvrage qui va nous intéresser, je pense, ultérieurement, Thinking Through Confucius, paru en 1987. Ensuite, Thinking Through Confucius, c'est-à-dire donc penser à travers Confucius, suivi de Anticipating China, c'est-à-dire donc anticiper la Chine en 1995, et Thinking from the Han en 1998, c'est-à-dire penser à partir des Han. Donc ici, nous avons dans cette trilogie un dialogue expérimental, hein, comme l'appellent leurs auteurs, donc en philosophie comparée, hein, auquel je reprocherais pour ma part en fait le fait qu'il n'échappe pas tout à fait et même pas du tout à la tentation essentialiste d'opposer donc un Occident doté d'une logique causale, transcendante, etc., à une Chine privilégiant les corrélations immanentes. Hein. Là, je dois dire que ce n'est pas exactement ma tasse de thé, hein, mais ce qui me paraît quand même intéressant, c'est ce premier titre, donc « Thinking from Confucius », « Through Confucius », c'est-à-dire ils prétendent retrouver la vérité de Confucius par une approche herméneutique. C'est-à-dire, donc, ils ont cette démarche intéressante dans son principe d'essayer de penser par Confucius plutôt que sur Confucius. Et à travers ça, en fait, nos auteurs essayent de retrouver donc le fond pragmatique de la philosophie américaine dont ils sont issus, représentée notamment par la pensée de Dewey. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont développé dans un ouvrage plus récent qui s'appelle « The Democracy of the Dead », c'est-à-dire donc « La démocratie des morts », qui est une expression en fait de John Dewey, où il traite justement de cette convergence qu'il voit entre les valeurs notamment morales et éducatives confucéennes et le pragmatisme de Dewey. Et je mentionnerai très rapidement pour finir donc un autre professeur sino-américain exerçant également à Hawaï, donc au milieu du Pacifique, à savoir donc Cheng Zhongying. Là aussi, vous avez ce double système de transcription qui est à peu près donc, de la même génération que Du Weiming. Hein. Alors, je mentionne au passage que le Cheng, ce n'est pas le même que le mien. Hein. Bien. Donc, il s'agit donc lui aussi d'un philosophe qui est le fondateur de la revue Journal of Chinese Philosophy, c'est-à-dire donc le journal de la philosophie chinoise. Et Cheng Zhongyi est quelqu'un qui a le projet philosophique de repenser l'éthique et la métaphysique proprement occidentale, mais dans des termes empruntés à la tradition intellectuelle chinoise, à commencer donc par le Yi Jing, hein, ou le Yi Qing, si vous voulez, le livre des mutations. Donc là, je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. Vous voyez donc sur ce dialogue, donc plutôt cette conversation donc sur la façade pacifique qui est actuellement en cours. Et donc ça nous pose à nous évidemment la question de savoir ce qu'il nous reste encore à faire. Bien. Merci de votre attention et à une prochaine fois peut-être. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.